VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roch Billon, bonjour à tous, il est 11h en temps universel. 8 civils ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, lors d'un nouveau massacre attribué au groupe armé des ADF, a indiqué un porte-parole de l'armée. En signe de protestation, des habitants en colère ont partiellement incendié la mairie de cette grande agglomération du Nord Kivu, proche de l'Ouganda. Il dénonce depuis plusieurs jours l'inaction des forces armées congolaises et des casques bleus des Nations Unies présents dans la région face aux tueries des forces démocratiques alliées. La police qui a tiré à balles réelles est parvenue à disperser les manifestants autour du bâtiment de la mairie. Les Bissau-Guinéens ont voté hier dimanche pour élire leur nouveau président et espérer tourner la page de l'instabilité chronique dans ce pays. L'AFP a signalé quelques échauffourées entre militants de différents camps, suivies de l'intervention de la police dans certaines localités. Et des accusations de fraude ont été lancées par le camp du président sortant, José Mario Vaz. Mais selon notre correspondante sur place, Ndari Kaling Lopi, de l'avis des observateurs internationaux, le scrutin s'est globalement bien déroulé.
Le champ du coq pour accueillir les premiers citoyens en Guinée-Bissau. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche dès 7h du matin. Dans ce premier bureau, chaque électeur a attendu patiemment son tour pour voter.
Tout s'est bien passé, je suis content. Depuis que le vote a commencé, il n'y a pas eu de problème.
Et ce calme, nous l'avons ressenti dans tous les lieux de vote où nous sommes allés à Bissau. Un sentiment partagé par le président du bureau 37-1 de la capitale, Carlos Najak.
En Guinée, il n'y a pas de violence. Des frères ne soutiennent pas le même candidat, mais ils coexistent quand même. Ce que les gens veulent, c'est un candidat qui se bat pour le pays.
Près de 700 000 Bissau-Guinéens étaient appelés à voter. Pas encore de taux de participation, mais l'engouement pour l'élection est bien là et sans accroc majeur. Un constat dressé par OneNet, un réseau composé notamment de 6 organisations civiles bissau-guinéennes. Julien Oussou en charge de la coordination du processus électoral.
Nous avons aussi remarqué que le processus s'est déroulé sans interruption. Il y a eu quelques cas isolés d'interruption dus au fait que, par exemple, un citoyen résiste à ce qu'on coupe sa carte parce qu'il a fini de voter, parce que ne comprenant pas que c'est cela qu'il fallait faire, un déficit d'information et de communication en amont. Globalement, de notre point de vue, le processus s'est déroulé correctement.
Côté candidat, des soutiens du président sortant, José Mario Vaz, ont dénoncé des fraudes du PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, et son candidat, Domingo Simões Pereira, n'ont pour leur pas répondu. Les résultats du premier tour devraient être communiqués en début de semaine. Darika Linglopi à Bissau pour VOA Afrique.
Rencontre hier à La Haye entre l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, et Charles Blé Goudé, l'ex-chef des jeunes patriotes en liberté conditionnelle, dans l'attente d'une décision de la Cour pénale internationale. Cette rencontre que M. Soro, ex-chef rebelle et candidat à la présidentielle de 2020, vient d'avoir avec M. Blé Goudé a été placée sous le signe de la recherche de la paix. Patrick Ndouimana.
La rencontre entre ses anciens frères et ennemis intervient symboliquement près de 10 ans après la crise post-électorale de 2010 à 2011 en Côte d'Ivoire qui a fait 3000 morts. Et à chacun, à une époque, dirigeait la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESCI, le puissant syndicat étudiant. Les deux hommes ont exprimé leur compassion et leur solidarité au peuple de Côte d'Ivoire pour les traumatismes et les nombreux préjudices subis au cours de la crise. Ils s'engagent à œuvrer pour une réconciliation sincère, conviennent que la réconciliation doit s'honorer de vérité et de repentance, gage de tout pardon. Ils réaffirment la nécessité de privilégier la voie du dialogue, de la négociation et de la concertation dans la résolution des conflits, poursuit le texte. M. Soro a annoncé en octobre sa candidature à la présidentielle de 2020 après avoir rompu les ponts avec le président Ouattara et la coalition au pouvoir Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, en début d'année. Il a multiplié les gestes envers ses anciens adversaires politiques, demandant pardon à Laurent Gbagbo ou en s'entretenant avec l'ancien président Henri Konan Bédié, lui aussi passé du RHDP à l'opposition.
Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur l'ouest du Kenya depuis vendredi ont fait 52 morts, notamment dans des glissements de terrain, selon un nouveau bilan communiqué lundi à la presse par le gouverneur du comté de West Pokot, John Loniangapuo. Le nombre confirmé de morts est à présent de 52, a déclaré le gouverneur.
Il a ajouté que des ponts avaient été emportés par les inondations, rendant difficile l'accès à des secours dans certaines zones. Un précédent bilan établi ce week-end de sources officielles faisait état de 29 victimes dans cette région. La Namibie vote mercredi pour des élections générales promises une nouvelle fois à l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain, la SWAPO, parti qui dirige ce pays depuis sans partage depuis son indépendance en 1990, malgré une récession économique sévère et la grogne montante de la population. Le président Jinjob, 78 ans, est candidat à un second mandat. Face à la machine électorale parfaitement huilée de la SWAPO, l'opposition fait pâle figure. La première femme à briguer la magistrature suprême, Esther Mojang, 57 ans, a dénoncé la corruption et le clientélisme du régime, mais Mme Mojang n'ambitionne au mieux que de remporter deux des 96 sièges du Parlement. La seule menace réelle semble venir d'un ancien dentiste et avocat de 62 ans, Panduleni Itula, toujours membre de la SWAPO, il se présente en candidat indépendant. Le peuple namibien vit dans la dèche, a-t-il regretté la semaine dernière. Je ne peux ignorer en conscience ce cri du peuple.
Nos infos sur voaafrique.com.
Le gouvernement chinois a assuré aujourd'hui qu'il continuait à soutenir résolument la chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, en dépit de la victoire de l'opposition pro-démocratie lors des élections locales de dimanche. Madame Lam a déclaré aujourd'hui que son gouvernement souhaitait écouter humblement la population au lendemain de ce réveil. Le porte-parole de Pékin a pour sa part répété que stopper la violence et rétablir le calme étaient les tâches les plus urgentes de Hong Kong actuellement. L'ex-maire de New York, le milliardaire Michael Bloomberg, s'est lancé dimanche dans la course à la Maison-Blanche, relançant avec sa candidature la compétition déjà serrée pour l'investiture démocrate Eric Maniracisa.
Je suis candidat à la présidentielle pour battre Donald Trump et reconstruire l'Amérique, a déclaré sur son site internet l'homme d'affaires de 77 ans. L'entrée en course de M. Bloomberg n'a pas suscité de réaction immédiate de Donald Trump, qui s'est contenté de retweeter des critiques de sympathisants républicains contre l'ex-maire de New York. Son immense fortune acquise dans les formations financières, quelques 50 milliards de dollars, fait de lui un prétendant apte à chambouler la course, encore très ouverte avec 18 candidats prêts à défier l'actuel locataire de la Maison-Blanche en novembre 2020, sans favori évident. Nous ne pouvons pas nous permettre 4 années supplémentaires d'action immorale et irréfléchie de la part de Donald Trump, a justifié M. Bloomberg dimanche. Il représente une menace existentielle pour notre pays et nos valeurs. S'il remporte un nouveau mandat, nous pourrions ne jamais nous en remettre, a ajouté le responsable à la tête de la métropole de New York de 2002 à 2013. Très actif dans la lutte contre le changement climatique, contre la prolifération des armes à feu ou pour la santé, Michael Bloomberg avait annoncé en mars qu'il renonçait à se présenter pour, entre autres, ne pas saper les chances de M. Biden. Son revirement apparaît donc comme un signal clair qu'il doute sérieusement des chances de Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama.
La Russie et les puissances occidentales se préparent à un nouveau bras de fer cette semaine lors de la réunion annuelle de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC, dont les enquêteurs s'apprêtent pour la première fois à désigner les responsables d'attaques chimiques en Syrie. Lors de cette réunion clé qui se déroule à partir de ce lundi jusqu'à vendredi, Moscou menace notamment de bloquer le vote du budget 2020 de l'OIAC si celui-ci comprend un financement pour l'équipe d'enquêteurs en Syrie. Le blocage du budget pourrait poser de graves problèmes à l'organisation, même si les États-Unis, la France et le Royaume-Uni estiment avoir suffisamment d'appui pour qu'il soit adopté à une large majorité. Et puis le pape François a évoqué aujourd'hui la préoccupation suscitée par l'usage de l'énergie atomique et a appelé à une mobilisation renforcée pour aider les victimes du séisme, du tsunami et de la catastrophe nucléaire de 2011 au Japon. Au troisième jour de son voyage au Japon, François a écouté les témoignages des victimes du séisme qui, le 11 mars, a soulevé le nord-est du Japon, une gigantesque vague dans laquelle plus de 18 500 personnes ont été emportées. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 54 minutes. Vous retrouverez Harry François.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.